7h49, notre invité ce matin est guide de haute montagne, un jeune alpiniste extrêmement talentueux et qui vient à 32 ans de signer un exploit, l'ascension des Grandes Jorasses, sommet mythique des Alpes, en solitaire, en plein hiver et par la face nord, ce qui ne s'était jamais fait. Bonjour Charles Duboulose.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. 6 jours et 5 nuits d'ascension la semaine dernière. Hein. 122 heures à la verticale, dans le froid, dans le vent. Racontez-nous dans quel état physique vous êtes arrivé au sommet et dites-nous aussi si vous avez pu récupérer depuis.
Alors déjà la face nord des Grandes Jorasses, juste pour une petite précision parce que dans la montagne on aime être précis, elle a déjà été gravie hein, la face nord en solitaire en hiver. En revanche cette voie qui est la voie Rolling Stone n'avait jamais été gravie en solitaire en hivernal. Et je précise parce qu'ici il y a des copains montagnards qui m'écoutent, il faudra être précis. donc les sentiments au sommet pour moi c'était un rêve. Donc forcément il y a beaucoup de choses qui ressortent et puis ça regroupe beaucoup d'années de pratique de la montagne sous toutes ses formes. Donc quand on arrive, en tout cas quand je suis arrivé au sommet, j'étais vraiment très ému et puis j'avais quand même bien donné pendant 6 jours, donc je pense qu'il y avait un relâchement nerveux et physique qui fait que j'ai tout simplement fondu en larmes. Hein. C'est des belles émotions que m'a transmis la montagne et cette aventure.
Et physiquement,
j'étais étonnamment bien quand j'étais au sommet. Et puis dans la descente, les jours d'après, ça allait. Et j'ai eu des blessures un petit peu plus importantes aux mains, dues au froid, donc des petites gelures, les ongles. Enfin voilà, dans ces ascensions, là, hivernales, qui sont très rustiques, on s'abîme quand même pas mal. Mais ça restait finalement assez superficiel. En revanche, j'ai une gelure au pied droit, mais qui devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques mois.
Vous avez perdu du poids?
Oui, pas mal.
Combien?
C'est parfait pour le régime. J'ai perdu 6 kilos, je crois, dans l'ascension. 1 kilo par jour, à peu près, je pense.
Vous avez très peu mangé et très peu bu durant ces 6 jours. Est-ce que vous savez l'expliquer?
Et non, j'ai beaucoup de mal à expliquer parce qu'en plus je trouve que c'est pas une bonne chose. Bon, physiologiquement c'est pas très intéressant de pas réussir à s'alimenter. Ça m'avait fait la même chose cet automne lorsqu'on était au Chamlang, donc au Népal, sur un sommet à 7319 mètres. Là on avait ouvert une voie dans la face nord, donc on avait fait un premier itinéraire dans la face nord et pareil, pendant 4 jours j'avais pas réussi à m'alimenter. Donc voilà, moi je préférerais réussir. Alors j'ai pas la clé, en tout cas j'ai pas encore trouvé comment faire, mais voilà, je pense qu'il y a du stress, je pense qu'il y a tout un cumul de choses qui fait que j'arrive pas à manger correctement.
Voilà, vous avez réussi cette ascension en buvant 50 centilitres d'eau par jour, ce qui est extrêmement peu. Hein.
Oui, non, là c'est sûr que pour ces efforts il faudrait se forcer à boire, mais pareil, voilà, il y a pas grand chose qui passait. Je pense que je devais être dans un espèce de tunnel très très concentré et que tout ce qui était autour, je devais l'occulter et puis ajouter un peu de stress, fait que j'arrivais pas à faire certaines choses correctement.
Vous nous l'avez dit, Charles Duboulose, cette voix, elle est surnommée la voix Rolling Stones. Ça n'a rien à voir avec la musique. Expliquez-nous la difficulté de cette ascension.
Alors, ça va être très compliqué là oralement d'expliquer la difficulté, mais c'est une voie qui est quand même très dure, donc qui est longue, hein, qui fait 1200 mètres, donc c'est une des voies les plus longues des Alpes, donc dans la face nord des Grandes Jorasses, donc qui est toujours à l'ombre. Ça, l'hiver, ça a vraiment son intérêt et sa caractéristique parce qu'il fait toujours très froid, le soleil ne vient jamais nous chauffer, et Rolling Stone est une voie très aventureuse avec du rocher qui n'est pas très très bon, c'est-à-dire que c'est une voie. Oui, voilà, exactement. Donc les pierres qui roulent, hein, c'est le nom de la voie vient de là, parce qu'à l'ouverture, il y a un des ouvreurs lorsqu'ils avaient ouvert la voie qui a été blessé par une chute de pierre. Et donc voilà, donc les pierres ne sont pas très solides. Il faut vraiment tester, grimper avec beaucoup de marge et avoir une bonne expérience de ce genre de terrain avant d'envisager cette voie. Et puis l'envisager tout seul, et ben ça rajoute quand même beaucoup de choses. Ouais.
C'est-à-dire qu'à tout moment vous dites que une pierre, un rocher peut se dérober sous vos pieds, c'est ça la crainte permanente?
Il y a plusieurs choses. En tout cas, j'ai trouvé dans mon ressenti que le bas de la voie était assez exposé aux chutes de pierre qui venaient d'en haut de la voie. Donc là, on peut se prendre une pierre sur la tête. Bon, là, c'est vraiment le coup de pas de chance, mais ça peut arriver parce que le rocher est pas très bon en haut. Et en revanche, voilà, quand on grimpe, là, comme vous l'avez très bien expliqué, bah, on peut arracher des pierres, on peut en faire tomber, on peut, voilà, des fois, on tire sur une prise, ça peut venir dans nos mains. Alors tout ça, il faut se rendre compte que c'est pris dans la glace, dans le gel, un peu dans l'hiver, parce que tout est mélangé, glace et rocher. En revanche, c'est pas très très solide comme on a l'habitude d'avoir dans le massif du Mont Blanc, du granit, donc du rocher granit qui est solide. Là, c'est plutôt du mauvais rocher, donc il faut, on pourrait utiliser l'expression, ce qu'on utilise en montagne, grimper sur des œufs. Il faut savoir grimper assez délicatement et évoluer de manière, on va dire, un peu comme un chat, quoi.
Vous avez réalisé cette ascension seul, ce qui est une première. Qu'est-ce que ça change?
Et ben, seul, ça change beaucoup de choses. Déjà, il faut en termes de parce que je m'assure, hein, dans la plupart des longueurs, je suis assuré. Il faut savoir manipuler les cordes pour deux. En fait, il y a beaucoup de manip.
Donc, il y a une première montée.
Une première montée, si on fait très simple, je fais la longueur, ce qu'on dit qu'on fait la longueur trois fois quand on est en solo, c'est-à-dire que je grimpe une fois, je redescends la longueur avec mon système d'assurage, hein, mais à la descente...
C'est quoi les portions étapes. C'est plusieurs dizaines de mètres?
C'est exactement, c'est 30 ou 40 mètres. Voilà.
Vous montez 30 mètres, vous redescendez 30 mètres et vous remontez 30 mètres sur
30
chaque portion.
Voilà, exactement, ouais. Donc c'est laborieux. Donc dans le genre d'ascension, il faut vraiment accepter d'être laborieux, d'être inefficace, hein, et de se dire si on fait, par exemple, 90 mètres ou 100 mètres par jour, c'est pas grave, c'est comme ça, on avance, on va vers le haut et on n'est pas efficace. Je suis quand même issu d'une génération de grimpeurs où on aime bien aller vite, être léger, rapide, encordé à deux. Et là, c'est vraiment l'opposé de tout ça. Et moi, l'essence de ma pratique, c'est quand même de grimper avec mes copains et de grimper rapidement. Mais j'adore aussi aller explorer ce côté un peu plus sombre et qui n'est plus du tout à la mode de grimper seul. Donc voilà. Donc quand on grimpe tout seul, ça rajoute une certaine dose d'engagement également. Parce que s'il y a un problème, alors une blessure ou pire, on est seul. Et puis, il faut grimper avec beaucoup de marge parce que la chute, même si on est assuré, elle n'est pas permise parce qu'elle est vraiment pas agréable du fait du système d'assurage. Enfin, voilà. Donc ça rajoute beaucoup de composantes. Et il y a également la prise de décision quand on fait seul. Alors quand on est deux, on arrive toujours à se conforter. On voit bien quand on est
en équipe, généralement. On se consulte, on discute.
Voilà, exactement. On est plus fort, on échange. Et puis là, donc la prise de décision, notamment sur le choix d'itinéraire, parce que c'est des voies qui sont très peu grimpées. Il faut une bonne lecture du terrain pour évoluer et pas se tromper. Et quand on est seul, il faut savoir prendre des décisions et dire allez, j'ai pris cette décision, je me conforte dans mon choix et je continue d'avancer. Donc voilà un petit peu toutes les différences que je note entre les deux.
Vous avez expliqué dans une interview donnée après votre exploit, je vous cite, il y a un côté très personnel parce que quand on va là-dedans, dans ce type d'ascension, il faut être au clair avec soi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que déjà il faut être prêt à passer une semaine tout seul. Donc moi j'avais du mal à estimer le temps que j'allais mettre dans la voie, c'était très compliqué. J'étais parti sur une semaine, ça me faisait moins peur que 6 ou 7 jours. Je me disais c'est plus doux une semaine dans les mots, dans le vocabulaire. Donc il faut vraiment être capable de se dire avec l'expérience, quand je vais dans une voie comme ça, je sais dans quoi je m'engage, je sais à quelle sauce je vais être mangé, je sais que je vais avoir froid, que je vais avoir faim, que je vais devoir prendre des décisions qui vont pas toujours être faciles. Donc ça, il faut être vraiment très clair. Et moi, quand je vais là-dedans, je suis, en tout cas, dans ma pratique, j'y vais pas naïvement. Je sais ce à quoi je m'expose, j'en ai pleinement conscience. Je sais aussi pourquoi j'y vais et pourquoi je le fais. Mais voilà, tout ça, c'est posé avant et ça me permet une fois que je suis dans la voie, d'être complètement concentré sur ce que je fais et pas de me poser toutes ces questions. En fait. Donc c'est on va dire une petite préparation mentale avant qui est importante.
Et ce qui est très rare, c'est que l'un de vos amis qui est alpiniste également, vous attendez au sommet, il est vidéaste, il a filmé votre ascension avec un drone, je le dis aux auditeurs, les images sont extrêmement impressionnantes, on vous voit tout seul chercher votre voix sur la paroi, on tremble pour vous, c'était important pour vous de partager via ces images?
Alors moi je suis un grimpeur qui est j'ai beaucoup grimpé dans mon coin sans jamais rien dire à personne. Et puis cette fois, donc Seb Montaz, qui est un ami et qui est aussi vidéaste et guide de haute montagne, il voulait vraiment faire des images sur cette ascension, qui trouvait aussi l'aventure sympa et marquante. Donc lui, il est venu au sommet, donc il a fait beaucoup d'images avec le drone depuis le sommet. Donc il est monté par l'Italie, donc par la face sud, qui est la voie normale des Jorasses. Hein, il n'est pas monté dans la face nord, il est monté par l'autre voie. Et oui, c'est sûr que ça a fait tout de suite un rendu assez exceptionnel. Et puis il me filme au sommet, plein d'émotions. C'est vraiment brut, hein, c'est pas du tout du jouet. Moi, j'étais vraiment dans ce tunnel là dont j'ai parlé tout à l'heure, et je voyais même pas qu'il était en train de me filmer. En fait, j'étais tellement dans mon truc, puis j'étais tellement heureux de revoir le soleil après 6 jours à l'ombre, que voilà, c'était plein d'émotions.
Merci à vous d'avoir partagé avec nous ce matin sur France Inter cette ascension hors du commun que vous avez réalisée. Les Grandes Jorasses, cette voie des Rolling Stones en solitaire en plein hiver et par la face nord. Merci à vous Charles Duboulos, merci également à France Bleu Pays de Savoie depuis Chambéry où vous étiez installé ce matin pour cette interview. Et puis on retrouvera le débat éco évidemment à 7h50 vendredi prochain avec Thomas Piketty et Dominique Seuf. France Inter.